à chacun et à chacune pour ce cycle de formation fondamentale, cycle 1, où nous avons la messe expliquée et première partie. On s'est rendu compte les années précédentes que la messe expliquée en une séance de 45 minutes, c'était presque impossible. Donc on prend le temps d'expliquer ce qu'est la messe, et pour cela, nous allons contempler dans cette première partie ce que nous appelons la liturgie de la parole, oui, même la liturgie pénitentielle, c'est-à-dire tout avant l'offertoire. Et la fois prochaine de l'offertoire, la consécration, la prière eucharistique, la communion et l'envoi, ce qui nous donne de pouvoir contempler. Le modèle étant la messe dominicale, la messe du dimanche qui est la plus déployée, mais nous arrêterons aussi sur la messe en semaine. Voilà. Alors, la célébration eucharistique est une convocation de Dieu. Pourquoi? Et c'est très lié à la parole. Quand nous allons à la messe, ce n'est pas d'abord nous qui allons à la messe par motivation. Nous avons certainement des motivations de fidélité, de désir de rencontrer Dieu, de lui plaire, de le remercier. Et comme le dit le Seigneur dans l'Écriture, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Et dans le plus profond du cœur, le Seigneur, c'est lui qui attire l'homme à lui. Ainsi, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, qu'elle soit entendue ou même dans le silence, le Verbe de Dieu touche le cœur de l'homme, attire la personne à rentrer dans l'Église. Et l'étymologie, le mot Église en grec, ecclésia, ça veut dire convocation. On est convoqué par la parole de Dieu. Donc on est regroupé par la parole de Dieu pour former l'Église. De la même manière que dans l'Ancien Testament, Israël s'est créé autour de la figure d'Abraham, parce qu'Abraham a entendu la parole de Dieu. Israël, son premier commandement, c'est écoute. Donc Israël se forme dans l'écoute. De la même manière, les chrétiens se forment dans l'écoute. Ils sont provoqués à la messe par la parole de Dieu. On peut dire, si je vais à la messe, c'est parce que le Seigneur m'a convoqué. Voilà. J'ai répondu à un appel. Et tous les dimanches, le Seigneur convoque son peuple. Voilà. Et aussi, nous pouvons nous arrêter aussi sur un deuxième mot, c'est l'Eucharistie. Voilà, la messe, l'Eucharistie. On dit en grec « Eucharistein », ça veut dire l'action de grâce, recevoir la grâce et rendre la grâce à Dieu. Voilà, on en parlera plus pendant l'offertoire, mais voilà, il faut retenir ces deux éléments. Alors notre célébration de la messe commence d'abord par un signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, c'est le signe de croix, ça nous rappelle que nous sommes convoqués par Dieu, par la parole de Dieu, qui s'est manifestée de manière éminente dans la croix. Comme dirait Jean de la Croix, le Père a dit une seule parole de toute éternité en parlant de la croix du Fils. Voilà. Il y a quelque chose de vrai, le Seigneur nous parle dans la croix, nous sommes scellés dans la croix depuis notre baptême, et nous commençons par le signe de croix, le signe de reconnaissance des chrétiens. Signe de croix et en même temps proclamation trinitaire, parce qu'il s'agit de « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Voilà. On se met en présence de Dieu avec la croix, avec la proclamation de la Trinité. Cette proclamation de la Trinité, le prêtre au milieu de du peuple de Dieu, dans la messe, il représente l'époux. On y reviendra, il est l'époux. Il est face à l'Assemblée, comme l'époux est face à l'épouse. L'assemblée liturgique a profondément une figure féminine. Non pas parce qu'il y a généralement plus de dames, mais parce que dans la spiritualité, elle reçoit. Et dans la spiritualité, le cœur émet. Et de la même manière, c'est l'époux qui se donne à l'épouse. On a cela dans Jean chapitre 3, quand Jean-Baptiste dit, quant à l'ami de l'époux, il entend, il est à côté, il parle de lui, l'ami de l'époux, l'ami de Jésus. Il entend la voix de l'époux, mais il dit avant, l'époux, c'est celui à qui appartient l'épouse, en disant l'Église. De la même manière, à l'Apocalypse, à la fin, on dit que l'Esprit Saint unis à l'Église, l'Esprit Saint et l'Épouse disent « Amen, viens Seigneur Jésus ». Voilà. Donc le Seigneur est en face de son troupeau et s'est personnalisé par le prêtre. Voilà, qui est le Christ au milieu de ses frères et sœurs. Voilà, au milieu de ses brebis. L'époux qui parle à l'épouse. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est les noces de Cana. On parle justement, on parle d'époux et d'épouse. Alors, voilà ce que dit le prêtre. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Quand le prêtre dit ça, il reproclame la Trinité, la présence de Dieu. La grâce de Jésus notre Seigneur, on peut en méditer toutes les grâces que le Seigneur nous a obtenues, l'amour de Dieu le Père, l'amour inconditionnel du Père, miséricordieux, et la communion de l'Esprit Saint. Vous voyez, l'union de nous-mêmes au Saint-Esprit, qui nous unit les uns les autres, Église, corps du Christ, peuple de Dieu et temple de l'Esprit, c'est les trois déclinaisons trinitaires, soit toujours avec vous, soit toujours là. Et le peuple de Dieu répond, et avec votre esprit. Pareil pour vous, et sous votre autorité. C'est un peu tout ça, qui voilà. Le prêtre peut faire plus simple en disant, le Seigneur soit avec vous. Et oui, le Seigneur, c'est Dieu. Donc c'est la Trinité. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Et pour les évêques, quand ils président, ils ont une parole qui leur est propre, que ne dit pas le prêtre. Alors je le rajoute, les attributs de l'évêque en particulier, je le dis ceux du prêtre, pour ceux qui ne le savent pas. Les habits du prêtre, bon, comment dire, l'aube, c'est l'habit des baptisés, c'est l'habit des enfants de lumière, que tous la portent, on la porte de manière éminente dans le cœur. L'étole représente le pouvoir spirituel du prêtre. Il confesse, il célèbre, il baptise, il marie avec cela. De la même manière que le diacre a une étole aussi, qui est d'une autre forme, des soucis, voilà. L'évêque a ce pouvoir-là aussi, donc il le porte, il est prêtre par excellence. Le prêtre a la grande cape qu'on appelle la chasuble, qui est en fait la charité du pasteur. C'est la charité du pasteur. C'est la charité qui englobe tout. Voilà. Donc, par-dessus tout, par-dessus le pouvoir, il y a la charité du pasteur. Voilà. L'évêque a aussi cela. Et qu'est-ce qui lui est propre? C'est que l'évêque a l'anneau, qui est l'époux de l'Église. Il est l'époux du troupeau. Il est l'époux d'un diocèse. Tellement fort que pour les premiers chrétiens, un évêque qui quittait son diocèse, c'était adultère. On voit l'idée de l'époux. De la même manière, il porte une mitre, parce qu'il est le docteur, non pas le docteur en médecine ou en théologie, il est celui qui est docte, qui enseigne, qui a reçu autorité pour. Et sa petite calotte nous rappelle la kippa juive, que pourraient porter aussi les religieux et les prêtres, kippa noire, kippa marron, kippa blanche. C'est pas réservé aux papes et aux évêques. Mais c'est plus, on le fait plus traditionnellement, mais on pourrait très bien. Mais la kippa violette de l'évêque, rouge du cardinal ou blanche du pape, rappelle la main de Dieu sur la personne. La main de Dieu. Voilà. Et puis l'évêque a aussi une crosse, qui est le bâton du berger. Donc il est par excellence celui qui représente l'époux de l'Église, le sacerdoce plein du Christ, troisième degré de l'ordre, après diaconal, sacerdotal, épiscopal, et par excellence le pasteur de son troupeau, et comme le disent encore les pères de l'Église, là où est l'évêque, là est l'Église. Et donc l'évêque, en droit, a une formule très particulière quand il commence sa messe, il ne dit pas « la grâce du Seigneur Jésus » de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous, ou le Seigneur soit avec vous, il dit exactement comme le Christ à ses apôtres au moment de la résurrection, il dit « la paix soit avec vous ». Ça, c'est la formule propre à l'évêque, qui peut le dire. Voilà. Alors après, il y a une autre formule aussi, que nous pouvons dire, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix, béni soit Dieu maintenant et toujours. Elle est moins connue, mais nous pouvons aussi la dire. Une fois que nous avons proclamé la présence de Dieu sous l'autorité du pasteur qui représente l'époux de l'Église, nous rentrons, nous nous préparons à rentrer dans la lumière. L'Eucharistie, dans les mystères du chapelet, c'est le mystère par excellence de la lumière. Donc on va monter, j'allais dire, en illumination. Quelqu'un qui monte en illumination, en présence qui va être de plus en plus éclairée, il va se découvrir lui-même de plus en plus pécheur. J'aime souvent à dire, Quand la lumière rentre pas dans une pièce, on ne sait pas si elle est en désordre ou en poussière. Plus elle y rentre, plus on y voit clair et on réagence les choses. De la même manière, quand nous rentrons dans la lumière, comme pour Israël qui proclamait Dieu trois fois saint et du coup avait des rites de purification, parce que la lumière rentrant, Israël voyait son péché. De la même manière, nous allons rentrer dans l'illumination par la parole et de manière éminente dans l'Eucharistie, et le peuple de Dieu, convoqué par le Seigneur, se prépare à reconnaître son péché. Ainsi, le président, voyez le président, c'est-à-dire celui, le prêtre ou l'évêque, dit la parole au nom du peuple de Dieu et aussi au nom de Dieu vers le peuple. Cette de Dieu vers le peuple et du peuple vers Dieu, cette fonction médiatrice, c'est le propre du sacerdoce. Donc des fois il parle au nom de Dieu et des fois il parle au nom du peuple vers Dieu. Mais tout le peuple est intégré avec lui à ce moment-là. Préparons-nous, dit le président, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Sous-entendu, on va rentrer dans la lumière, ça, mes amis, ça va illuminer dur, ça va nous éclairer, préparons-nous. Et à ce moment-là, il est bon de prendre, nous dit le rituel, un bref temps de silence. Ce n'est pas simplement pour dire, oula, j'ai travaillé ce matin, maintenant la messe est à midi, on se calme, on arrête les portables. Non, c'est pas ça. C'est, je vais faire un examen de conscience. Je vais vraiment faire un examen de conscience pour voir si je suis dans la lumière ou pas. Et là, on prend un temps de silence. Et s'il le faut, c'est bien, et peut-être les présidents et moi le premier, nous devrions accentuer le temps de silence. Et on fait silence. Donc, on s'examine son cœur. Et là, tous ensemble, nous demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. C'est généralement le je confesse qui est le plus utilisé. Ou alors, le prêtre peut dire, Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Je vais m'arrêter sur le commentaire du « Je confesse à Dieu ». Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe, comme dirait notre curé, que la liturgie a une valeur sacramentelle complète. Tout est sacramentel dans la liturgie. Ce n'est pas simplement le moment de l'Eucharistie. Ça, c'est l'épicentre, mais ce n'est pas le mot « tout ». Ça veut dire que chaque parole a une valeur effective sur nous, à des degrés divers, mais réels. On rentre dans la sacramentalité, dans la messe. Et donc, quand nous demandons pardon à Dieu après nous être examinés, Dieu va effectivement nous donner un pardon réel. Ce n'est pas simplement une petite parole, c'est un vrai pardon. Et l'Église reconnaît que le péché véniel peut être pardonné à ce moment-là. Non pas le péché mortel, mais le péché véniel peut être pardonné. Il est bon de le confesser en confession, parce que ça rend, il y a une fructuosité de le faire, ça rend fécond notre capacité à nous convertir, à avoir une lumière précise sur tel ou tel point qui demande conversion, avoir telle ou telle force soutenue par la grâce. Mais il est vrai aussi qu'à ce moment-là, pour les péchés véniels, la liturgie pénitentielle dans laquelle le préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs nous introduit, effectivement nous prépare à recevoir un pardon. Et donc quand nous disons « Je confesse à Dieu », on ne dit pas tous nos péchés devant nos frères. Mais ensemble, nous prenons conscience que notre péché blesse notre communion à Dieu et notre communion, communautaire entre nous. Et c'est pour ça qu'on dit « Je reconnais devant mes frères ». Et après, vous avez les catégories de péchés. Et c'est très intéressant. En pensée, en parole, par action, et surtout celui qui est le grand oublié, de fait, il est omis, c'est l'omission. Et oui, on peut omettre plein de choses. Omettre de prier, omettre de remercier, omettre d'éclairer quelqu'un sur Dieu, omettre de corriger pour amener à la vérité. Vous voyez? Et pourtant, c'est important. Donc, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi, et là, Dieu ne nous laisse pas seuls. Nous confessons ensemble notre péché, mais Dieu ne nous laisse pas seuls parce qu'il nous invite à supplier les saints. Suppliez de manière éminente la Mère de Dieu et les saints qui sont devenus saints, sauf pour la Mère de Dieu, mais les autres avaient des péchés. Et du coup, de nous soutenir avec leur aide pour aller vers la demande de miséricorde. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. On se rappelle qu'il y a notre ange gardien dans le coin. Les anges et tous les saints. Et aussi les frères. Parce que l'idée, vous voyez, si on est convoqué à la messe, on est convoqué pas tout seul, ensemble. Donc, forcément, la qualité d'écoute, de repentance, de communion, d'offrande de moi-même et d'envoi en mission a de l'influence sur mes frères. Et doit en avoir. Y compris quand je dis la paix du Christ à mon frère. Quand je l'adore. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères. En gros, les amis ont prié ensemble, j'ai besoin de me convertir, je compte sur votre prière et vous comptez sur la mienne. Et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Donc c'est profondément communautaire. Le pape Benoît XVI, en son temps, dans Spe Salvi, encyclique sur l'espérance, rappelait, en citant de Lubac, le grand cardinal, qu'effectivement, il n'y a pas de salut personnel. Le salut est toujours communautaire. Donc là, dans la formule du Je confesse, c'est très clair. Pour ça, la messe perso, ça doit redevenir la messe communautaire. C'est normal. Voilà, une fois que nous avons reconnu, demandé l'intercession des saints, en s'appuyant sur la prière des frères et sœurs, le prêtre récolte ces prières-là. Il récolte toutes ces prières et il dit « Que Dieu Tout-Puissant !» Donc là, il porte ça à Dieu, au nom de ses frères. « Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. » Donc, foi d'abord que Dieu est miséricordieux, c'est premier. Premier. Avant nos péchés, c'est ça qui est premier. Deuxième chose, ben c'est ce qu'on a fait, ou omis, ou mal pensé, ou mal parlé. De tous ensemble, il les porte, comme un médiateur. Et le but, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Voilà, tout de suite réorienté vers le but de notre vie. Qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et là, à ce moment-là, nous, généralement, on peut dire, Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, etc. Mais vraiment, le terme en grec, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec kurios. Kyrie, c'est une déclinaison de kurios. Ça veut dire Seigneur. Eleison, prends pitié. Christe, donc Christos, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et c'est très ancien. C'est une des parties, comme disait le Père Lubot, les plus anciennes de notre liturgie chrétienne. Donc nous disons à Dieu, prends pitié, Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Moi j'aime à dire qu'il y a une formule un peu triple, donc il y a pas une sorte de formule trinitaire. Voilà. Je vous rajoute ça. Mais ce qui est beau, c'est Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Voilà. Alors on demande pardon là, après l'examen, après avoir porté au Seigneur toutes ces prières, là on l'invoque vraiment, Seigneur, prends pitié, et sans pitié, etc. Et à ce moment-là, dans la foi, nous croyons que Dieu nous a pardonné. Nous croyons que Dieu nous a pardonné. Et généralement, à ce moment-là, on a fini la liturgie pénitentielle. En semaine, nous avons la prière à ce moment-là, qui va par exemple être pour cette semaine, le prêtre qui dit « Prions le Seigneur » pour réintroduire la prière, et il dit « Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. » Alors, ça, vous avez des thématiques pendant l'Avent, pendant le Carême, pendant les jours de solennité, pendant la semaine, etc. C'est pour quand dans une semaine ordinaire, par exemple, une semaine d'Avent ou de Carême, ça reste toujours pareil. Donc il est bon d'écouter la prière de demande qu'on fait à Dieu, parce qu'elle est exaucée dans la parole de Dieu, elle est exaucée dans l'Eucharistie, mystérieusement, et elle conduit l'Église. Voilà. Mais avant cette prière, le dimanche, nous avons le Gloria. C'est-à-dire, une fois que nous avons demandé pardon à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On jubile. Il ne s'agit pas de dire, pardon Seigneur, oh, je suis un misérable, je suis un pauvre type, je suis foutu, c'est mort, et tout, de toute façon, je ne reviendrai pas. Non, non, le vrai chrétien, il demande pardon à Dieu, mais il a acte d'espérance que sa fin, c'est la vie éternelle. Il ne se décourage pas, comme on a vu la dernière fois. Et donc, à ce moment-là, il chante la gloire de Dieu. Il n'est pas rabougri sur lui-même, il se tourne vers Dieu. Et donc, on chante le Gloria. Et généralement, c'est le prêtre qui l'entonne, en français ou en latin, et tout le peuple de Dieu, on prend et on chante la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, on est unis aux saints, aux anges et aux âmes du purgatoire qui chantent la gloire de Dieu. Voilà. Ce gloire à Dieu, nous le chantons toute l'année, sauf pendant le temps de l'Avent. Parce que pendant le temps de l'Avent, nous arrêtons ce chant si beau de louange pour le réserver au moment de Noël. Parce qu'au moment de Noël, effectivement, à la naissance de l'enfant Dieu, les anges ont chanté dans les campagnes « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Et donc, nous nous préparons à le chanter à Noël. En gros, on met la joie en sourdine pour la hâter en son temps, pour la désirer en son temps. Mais en général, on peut la chanter à tout moment de l'année et on peut la chanter aussi à des fêtes, des solennités de semaine, à des mariages, etc. Parce que c'est la gloire de Dieu. Voilà pour le propre du dimanche par rapport à... Et puis à la fin de ce Gloria, effectivement, on prend la prière, comme je disais, qui récapitule et qui est une demande de grâce particulière pour la semaine et que l'Église prie, voilà, et qui est bon d'entendre, voilà. Enfin, pour certains prêtres, la prière qui est donnée là, la prière d'ouverture, peut aider à donner la thématique de l'homélie. Beaucoup de choses peuvent être dites là-dedans. Voilà. Après la prière que nous avons eue, pénitentielle, qui finit par une jubilation, vous voyez, c'est beau, le chrétien, pénitentielle, ça finit par la jubilation. Nous sommes debout. Pourquoi nous sommes debout à ce moment-là? Il faut expliquer les gestes. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse, mais c'est important. Il y a une très grande confusion aujourd'hui dans l'histoire de la liturgie. En aucun cas, il faut juger personne. Moi-même, je ne suis pas un expert. Est-ce que je peux dire, il y a des gestes qui sont facultatifs et d'autres qui sont obligatoires. Et donc, il faut petit à petit, avec beaucoup de respect, parce que la règle par-dessus tout, c'est la charité qui fait l'unité, mais parce que nous avons besoin d'unité aussi dans la manière de prier en commun, pas personnellement, il est bon de se réaccaparer les gestes de la liturgie et aussi les gestes obligatoires. Voilà. Parce qu'il y en a. Il y en a. On en parlera plus tard, pendant la deuxième partie de l'Eucharistie, mais c'est vrai. Alors, justement, dans cette première partie, nous sommes debout. Pourquoi? Parce que c'est le signe de la résurrection. On raconte que le curé d'Ars, quand il adorait le Saint-Sacrement le dimanche, il était debout. Non pas parce qu'il n'avait pas de respect pour le Saint-Sacrement et qu'en semaine, on sait qu'il était à genoux, et des heures, mais parce que c'est la pose du ressuscité. Le ressuscité est relevé. Celui qui s'est relevé, qui s'est levé, en grec, c'est réveillé, c'est le même terme que ressuscité. Donc le peuple de Dieu, le dimanche, il fête la résurrection du Seigneur, donc il est debout, de manière éminente. Mais en fait, cette résurrection du Seigneur, à chaque fois qu'on est à la messe, parce qu'on est en présence du ressuscité, debout. Alors au moment des... Voilà pour la liturgie pénitentielle, introductive, pénitentielle et jubilatoire. Et maintenant nous rentrons dans la liturgie de la parole. Le peuple de Dieu qui jubile, qui a les yeux tournés vers Dieu, qui a demandé pardon, va écouter son Seigneur parler, qu'il l'a convoqué. Et à ce moment-là, il s'assoit. Et la pose de la assise, ce n'est pas simplement la pose « Oh, je suis bien fatigué, oh, je vais me mettre dans mon coin, personne ne va me voir, oh, je suis un peu âgé, j'ai besoin de m'asseoir ». Évidemment, tout ça n'est pas forcément mauvais, mais la pose assise, c'est comme les stalles des moines. C'est la pose de la méditation. Quand vous voyez dans les peintures la personne assise et qui a la Bible entre les mains, c'est qu'elle écoute la parole de Dieu, elle la médite. Et donc là, nous sommes assis parce qu'effectivement, nous allons recevoir la parole de Dieu et la méditer. Donc la fonction, le geste n'a pas un sens. Vous voyez, j'aime prendre cette comparaison, le penseur de Rodin, il médite, il est un peu comme ça. Mais le chrétien, il n'est pas comme le penseur de Rodin, mais n'empêche, il est assis et médite. Voilà. Donc à ce moment-là, vous avez en semaine une première lecture, un psaume et un évangile. Alors que le dimanche, vous avez une première lecture, un psaume, une seconde lecture et l'évangile. La première lecture, généralement, comme nous allons la voir aujourd'hui, en ce deuxième dimanche ordinaire, nous avons le prophète Isaïe en première lecture. Voilà. La première lecture, généralement, c'est l'Ancien Testament. Sauf pendant les temps de Pâques ou d'autres moments, vous aurez l'Apocalypse, des choses comme ça. Mais généralement, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament, ce sont les promesses de Dieu à son peuple. Donc nous entendons l'histoire du salut. Nous entendons les promesses de Dieu à son peuple. Et ça, c'est important. Nous entendons toujours l'Ancien Testament, on pourrait dire, mais Dieu a fait ses promesses, maintenant on n'en a plus besoin. Nous entendons toujours l'Ancien Testament parce que c'est toujours parole de Dieu, et Dieu parle. Les pères de l'Église disent que Jésus parle dans l'Ancien Testament de manière cachée. Et dans le Nouveau Testament, il parle de manière dévoilée. Mais dans les deux, il est là parce qu'il est la parole de Dieu, le Seigneur. Donc il parle. Ce qui est très beau pour nous, chrétiens, aujourd'hui, d'écouter l'Ancien Testament, c'est que c'est une vraie éducation à la transcendance de Dieu, au droit de Dieu sur tout. Voilà. J'insiste souvent à la prophétie, à être des prophètes. Le prophète, dans la société, il défend les droits du pauvre, mais il défend aussi les droits de Dieu. Il rappelle la primauté de Dieu. Et on a beaucoup besoin, pour bien comprendre le christianisme, pour comprendre l'Évangile, de se rappeler la transcendance de Dieu qui est dans l'Ancien Testament. Sinon, l'incarnation va nous sembler un peu comme un pote. Il y a la réduction du Christ homme comme un ami, alors que d'abord, c'est le Dieu transcendant qui s'est incarné. Donc on garde cette éducation de la transcendance de Dieu qui parle dans l'Ancien Testament, qui promet des choses, qui nous éduque. C'est toujours valable pour nous, même si les promesses sont accomplies. Voilà. Et c'est parole de Dieu. Donc nous l'entendons, et généralement vous verrez la première lecture s'accomplit toujours dans le mystère du Christ, dans l'Évangile. Je prends encore un exemple aujourd'hui. Vous avez le prophète Isaïe qui dira « Cette terre deviendra l'épouser ». Très bien. Vous aurez dans l'Évangile les noces de Cana, ça parle des époux. La semaine dernière, on parlait de quelqu'un qui va aplanir les chemins du Seigneur, et après on parle de baptême et de Jean-Baptiste. Et on sait très bien que Jean-Baptiste a dit lui-même qu'il est la voie dans le désert qui prépare le chemin du Seigneur. Donc on voit que la parole Ancien Testament se réalise toujours, s'accomplit dans l'histoire de Jésus, dans l'Évangile. Vous avez un lien direct. C'est très bon à voir ça. Pour le psaume, quel est l'intérêt du psaume ? D'abord, Dieu nous parle, nous l'écoutons dans la foi, nous exerçons dans la foi assise. Nous sommes en attitude méditative. Nous exerçons quoi ? Notre foi, notre espérance et notre charité. Écouter Dieu, c'est l'aimer. Écouter Dieu avec la vertu d'espérance, c'est espérer que ses promesses réaliseront aussi pour moi et pour l'Église en son temps. Et puis aussi, la foi. Je t'écoute dans la foi. On en a vu la dernière fois que la parole de Dieu est le support de la vertu de foi. Voilà. J'exerce mes vertus théologales à mon baptême. Voilà. Ça, c'est important. Et je réponds comment à Dieu ? C'est là où on arrive au psaume, qui est une réponse. On dit responsorial. C'est quelque chose qui répond. On ne répond pas à Dieu en disant « Super, Seigneur, ta parole, louange à ta parole, bravo pour ta parole, tu es super. » On pourrait faire ça. On pourrait acclamer Dieu. Augustin, il semblerait, faisait applaudir Dieu à la messe. C'est beau. Mais ce que nous faisons, c'est nous répondons à Dieu avec les mots de Dieu. C'est plus fort. Voyez-vous, la prière chrétienne, qui est un gémissement avec le Saint-Esprit, dans l'Épître aux Romains, on nous apprend que prier, c'est prier dans le Saint-Esprit, parce que nous ne savons pas prier par nous-mêmes, nous ne savons pas demander ce qui est bon pour nous. De la même manière, à un moment donné, la prière avec mes paroles est limitée. Et donc j'ai besoin, pour être éduqué et avoir des sentiments plus grands, d'intercession, de pénitence, d'action de grâce, de rentrer dans les psaumes qui sont, nous dit l'Église, l'école de prière par excellence. Donc je rentre dans le psaume pour apprendre à avoir des sentiments décentrés de moi-même. Comme c'est une prière communautaire, je peux être dans la joie, mais on est en carême, j'entends un psaume de pénitence, je rentre dans l'attitude spirituelle du pécheur pénitent qui veut la conversion pour lui ou pour son peuple. Voilà, et je suis éduqué parce que je réponds à Dieu qui m'a parlé en première lecture par sa parole. Voilà. Et rentrer dans les psaumes, c'est rentrer dans les sentiments du Christ. Voilà. De manière excellente, c'est le Christ qui a vécu les psaumes. C'est lui qui les prit en allant au Mont des Oliviers. Voilà. On rentre dans les sentiments du Christ. Voilà. Donc ça, c'est pour la réponse. La deuxième lecture, le dimanche, elle est plus tournée vers la deuxième partie de l'Écriture qui est le Nouveau Testament, en dehors des Évangiles. Cette deuxième lecture, elle est véritablement un enseignement pour la communauté. Généralement, nous avons l'apôtre Paul, mais Jacques, Pierre, etc., qui vont dire un enseignement, et je dis un peu des grandes familles. Généralement, ils vont dire « Nous sommes le corps du Christ, le Christ est ressuscité, les amis, il faut vivre de telle manière et pas de telle manière. » C'est morale, proclamation de la foi. Ça parle aussi de la communauté. Jacques va dire en gros « Il faut vivre de charité, les amis, la place des pauvres. » Paul va parler, par exemple, de l'évangélisation. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, en gros, nous entendons le Seigneur à travers la voix d'un apôtre qui enseigne la communauté chrétienne pour vivre au mieux ensemble en chrétien dans le monde. Voilà. Si la première lecture, c'est les promesses de Dieu faites à Israël, qui se sont accomplies en Jésus-Christ, et nous le voyons dans l'Évangile, et qui continuent à nous enseigner, à demander dans la foi, l'espérance et la charité, et à croire que Dieu nous enseigne dans sa transcendance. Voilà. De la même manière, le psaume est une réponse qui nous apprend des sentiments plus grands que nous, l'intercession. La deuxième lecture est un enseignement communautaire. Est un enseignement généralement communautaire ou des fins dernières dans l'Apocalypse, etc. Pour la communauté, pour la Jérusalem céleste. Mais là, nous avons un enseignement communautaire. Alors, il est plus dur à placer effectivement par rapport à la première lecture et l'Évangile. Il peut sembler en apparence un peu décalé, mais c'est un enseignement communautaire, voilà, qui est donné, je vous dis, sur l'évangélisation, la place des pauvres, la place du couple, la place du Christ, la confession de foi, le mystère de l'Église, etc. L'exercice des charismes, voilà. Voilà pour ces deux lectures. Et pareil, à chaque fois, nous proclamons à la fin de la lecture, première lecture, deuxième lecture, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu nous as fait un cadeau. Merci pour ce cadeau. Reprendre conscience, Jésus est en train de parler, Dieu parle, tu m'as fait un cadeau, Seigneur, merci, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Je reviens sur le psaume pourrait être chanté entièrement par l'assemblée, parce que c'est la réponse du peuple de Dieu à Dieu qui parle. Par des moyens de simplification, un chantre le fait en notre nom, mais on peut s'unir à lui, pas simplement l'écouter. Tu dis ma prière, toi qui chantes en ce moment, et généralement nous rajoutons un refrain pour que tout le monde sente bien qu'il participe à cela. Mais nous pouvons avoir des alternances, il existe toute une modalité possible de réciter le psaume, comme on dit, de le psalmodier. Et de fait, c'est nous tous qui chantons le psaume. Voilà. Parole du Seigneur. Après, nous avons l'Évangile. L'Évangile. Alors, généralement, avant l'Évangile, on se lève. Attention, c'est le ressuscité qui va parler de manière éminente. Et pour nous chrétiens, le cœur de l'Écriture, ce n'est pas comme les juifs, la Torah, les cinq premiers livres. Pour nous, c'est les quatre évangiles, parce que ça raconte la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ces quatre évangiles découlent tous les enseignements des apôtres, et de ces quatre évangiles sont toutes les promesses de l'Ancien Testament. Donc c'est les quatre évangiles le cœur, donc ils ont une dignité supérieure. Et des fois le dimanche, on prend l'évangéliaire, le grand livre, pour amener au moment de la proclamation de l'Évangile, on proclame toujours la parole, on ne la lit pas, on la proclame dans la foi. Ce n'est pas un livre, c'est fait pour être entendu. Nous sommes la religion de la parole vivante et non pas d'un livre. La différence, par exemple, de l'islam, n'est pas la religion du livre, c'est de la parole vivante. On proclame la parole, on vient avec l'évangéliaire qui peut remplacer à ce moment-là le livre de l'Écriture qui est le lectionnaire, vous avez les autres lectures. Et là, on chante l'Alléluia, qui est un terme hébreu qui veut dire « louer Dieu », on loue Dieu. Et j'insiste, on peut dire l'Alléluia même aux sépultures. Il ne faut pas être tenté, parce qu'on est triste, d'enlever l'Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, Dieu parle, il faut toujours lui rendre grâce, toujours le louer, même quel que soit le degré de notre deuil, et parce qu'il est le ressuscité. Donc nous le faisons. Il y a juste en carême, à nouveau là, pour nous préparer à accueillir le ressuscité après le mystère pascal, au bout du mystère pascal, que nous changeons l'Alléluia en une formule un petit peu parallèle pour ne pas le dire. Mais sinon, nous le proclamons tout le temps, même aux sépultures, et en contraire aux sépultures, parce qu'il est le ressuscité. La mort n'a pas le dernier mot. Alléluia. Vous voyez ? Ça, c'est important. Alléluia, il va parler, on se lève, attitude du ressuscité, on manifeste que l'évangile, c'est un degré au-dessus que toutes les autres lectures. Voilà. Généralement, c'est le diacre qui le proclame, s'il y a un diacre. S'il n'y a pas de diacre, ça peut être le prêtre, ça peut être l'évêque, mais s'il y a un diacre, c'est le diacre. Et il va demander la bénédiction au prêtre ou à l'évêque. Voilà. Et pour que vous l'entendiez, parce que généralement on n'entend pas ce que dit le prêtre à ce moment-là, quand il bénit, il dit « Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous proclamiez la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc le diacre va, il proclame l'évangile. Je dis qu'on pourrait toujours, tous les dimanches, chanter toute la messe et proclamer l'évangile en chantant. Voilà. On ne le fait pas toujours, mais on le fait des fois de manière solennelle. Et la valeur du chant, c'est que ça nous fait écouter de manière nouvelle, ça ennoblit la parole. Augustin disait « chanter, c'est prier de foi ». Mais aussi, à mon sens, ça met la parole dans un registre surnaturel. On écoute de manière différente ce qui est chanté que ce qui est parlé. Donc là, on proclame la parole, parce que proclamer, c'est quoi? C'est pas dire. Même quand c'est chanté, c'est proclamer. C'est, je crois que la parole a un acte, une action. Comme dirait Isaïe, la parole qui vient à nous ne repart pas sans avoir fait son effet. Donc proclamer, c'est croire que je rends présent Dieu en parlant sa parole. Donc je la proclame dans la foi. Et j'y adhère de mon espérance, ma foi, ma charité. Et que ça agira. Voilà. Au-delà de ce, des effets, je crois. Ça agira. Donc on proclame la parole, et généralement on l'encense, cette parole. On l'encense. Parce que on pense que c'est une présence de Dieu, elle mérite vénération. Et à nouveau, le ministre, qu'il soit prêtre, évêque ou diacre, il dit « Le Seigneur soit avec vous ». On se rappelle que le ressuscité est parmi nous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ, c'est toujours la vie de Jésus, c'est pas d'abord Luc, etc., c'est la vie de Jésus, c'est Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon un tel, selon saint Luc, etc. On fait une croix, et à ce moment-là, on fait une croix sur son front, sur sa bouche et sur son cœur. Pourquoi? Parce que on veut que le Seigneur s'imprime dans notre cœur, dans notre tête. Et vous savez, la plus grande distance dans l'univers, c'est pas la distance dans les étoiles aux extrémités de l'univers, c'est la distance entre le cœur et l'intelligence, entre l'intelligence et le cœur. Ça, il faut beaucoup de temps pour les franchir. Donc, on demande que le Seigneur se greffe sur notre intelligence, que je comprenne avec toute mon intelligence la parole de Dieu, j'utilise, je médite, avec mon cœur surtout, que ça rentre dans mon cœur comme la Vierge Marie, que je médite dans mon cœur, et que je puisse la proclamer après, dans mon cœur, dans mon intelligence, et que je le proclame. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et là, généralement, le ministre proclame la parole de Dieu. Vous pouvez enlever la tête du ministre et mettre la tête de Jésus, c'est Jésus qui parle en direct. Voilà. C'est pour ça qu'à la fin de l'évangile, la proclamation de l'évangile, on ne dit pas « Louange à la parole de Jésus, historiquement, il y a 2000 ans, t'as bien parlé, bravo mon gars, super ministre. » On ne dit pas ça. On dit « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Parce que c'est du direct, Jésus a parlé. Louange à toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parce qu'il est en train de parler. Et ça, c'est très important parce que Benoît XVI, dans son exhortation post-synodale sur la parole de Dieu, Verbum Domini, nous rappelait effectivement que la manière où nous entendons de manière éminente la parole de Dieu, ce ne sont pas dans notre petit coin, même si c'est bien dans l'oratoire ou en faisant lectio divina, de manière excellente, c'est quand elle est proclamée à la messe. Parce qu'elle est vraiment là, une totalité ecclésiale, et c'est vraiment Jésus, on est sûr, qui parle. Donc là, on peut dire, le ressuscité est en train de parler. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et là, on se rassoit. Et en se rasseyant, alors bien sûr, avant, j'ai oublié de dire, quand on chante l'Alléluia, il y a un petit verset qui nous introduit à l'Évangile, qui peut être tiré de l'Évangile ou d'un autre Évangile, qui nous met dans un contexte. Vous voyez, c'est comme la prière d'ouverture. Là, on a des éléments thématiques qui peuvent nous indiquer de quoi ça va traiter et nous préparer. Aussi, il est bon, quand on va à la messe, d'avoir lu en amont les lectures et de les avoir méditées. Voilà, je vous dirai des choses là-dessus après. Donc, à ce moment-là, on se rassoit. Attitude de méditant. En gros, j'ai beaucoup reçu. Première lecture, j'ai répondu. Deuxième lecture, évangile. J'essaye de repérer des mots, des thèmes qui me touchent, je me rassois, je digère. Et qu'est-ce qui va se passer? On va faire une homélie. Alors évidemment, quand c'est le diacre qui a proclamé l'évangile, ou le prêtre qui est un évêque, nous n'embrassons pas l'évangile, nous allons le faire embrasser par l'évêque, qui est le docteur. Et je rappelle que dans la liturgie d'ordination d'un évêque, à un moment donné, on lui met l'évangile sur la tête, comme un toit de maison, parce qu'il est celui qui va enseigner son peuple sur la parole de Dieu. Il n'a pas le droit d'enseigner autre, il peut dire des choses, mais il ne peut pas enseigner autre chose que la foi de l'Église. Donc on remet au docteur de l'Église, tu embrasses la parole sur laquelle tu as été ordonné. Voilà. Donc il l'embrasse. Quand il n'est pas là, ben, les prêtres le font par coopérateur, par subalterne. De même que le diacre peut le faire. Mais on est toujours rattaché à l'évêque. Pour bien montrer, on est rattaché au docteur. On va enseigner au nom du docteur. Et donc on se rassoit, il y a l'homélie. Et l'homélie, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai été étonné moi-même. Vous savez, les prêtres, ça apprend toujours des choses. Surtout quand ça fait des enseignements. On croit qu'ils savent, mais ils ne savent pas tout en fait. Ils apprennent sur le tas. J'ai été étonné dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile du pape François, qu'il disait qu'à ce moment-là, l'homélie, c'était pas, bon voilà, le prêtre fait un sermon, ça dure longtemps, petit patata. On regarde le sermon pourvu que ça dure pas trop longtemps, parce qu'il y a la dictature de la dinde au marron, la messe va finir pas trop tard, et alors après, vous m'en direz des nouvelles, mon routine est foutue. Non, 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 on est là, on prend son temps, c'est pour le Seigneur. C'est pas trop long, mais c'est quand même le Seigneur. Si c'était le président de la République qui parlerait, je crois qu'on aurait tout notre temps. Alors c'est Dieu, c'est marrant, on n'a pas beaucoup de temps. Donc peut-être chercher l'erreur. Toujours est-il, c'est que le pape François disait, à ce moment-là, c'est la présence de Dieu la plus forte de la messe avant l'Eucharistie. Pour lui, c'est plus fort que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'étais très étonné, parce qu'il dit qu'en fait, à ce moment-là, c'est Jésus qui va parler, comme il l'a fait dans l'Évangile, mais d'une manière très concrète et actuelle pour son troupeau. Voilà. Et ça passe par la bouche du ministre. Le diacre peut, en tant que ministre de la parole, peut faire une homélie. De manière éminente, le prêtre et l'évêque, qui sont les pasteurs, les guides du troupeau, et que le troupeau écoute la voix, Jean chapitre 10, ils écouteront ma voix, il y aura un seul peuple. Voilà. Ben, ils enseignent au nom de Jésus et ils rendent actuelle la parole. C'est-à-dire la parole, à ce moment-là, elle doit agir pour moi, elle doit être dans ma vie. Le prêtre va m'aider à être touché. Et des fois même, il y a certains prêtres qui prennent les mots de Jésus, qui se mettent à parler au nom de Jésus. Ça nous touche un peu parfois, mais en fait, c'est vrai. C'est que c'est Jésus qui parle pour moi, là. Et l'homélie peut m'aider à comprendre, comme un commentaire de l'écriture que j'ai eu, à m'aider à resituer au niveau de mon intelligence le contexte, etc. Mais par-dessus tout, elle doit m'aider à rentrer dans l'actualisation de la parole. Voilà. Donc voilà, c'est un grand moment. Pendant l'homélie, comme avant, vous pouvez très bien avoir un petit carnet et noter un verset, un mot qui m'a touché dans la parole de Dieu, un geste qui m'a touché et un petit commentaire de méditation de l'homélie. Généralement, quand Dieu parle, on dirait, mais je l'entends jamais. Pourtant, dans la foi, il nous parle souvent. Mais quand Dieu nous parle, on dit, ah, Dieu m'a parlé, c'est génial. On sort de l'église, on dit, ah, il t'a dit quoi? J'ai oublié. Alors, on n'a plus rien pour la semaine. Si on notait un petit peu ce qu'on avait eu, on verrait que Dieu parle souvent. Et si on notait, et on regardait de note en note où il veut nous amener, on verrait un fil rouge. Et là, on pourrait plus dire, Dieu ne nous parle jamais. Donc moi, j'invite véritablement les chrétiens, non pas à dire, les prêtres font des super homélies, donc on va tout noter. C'est pas du tout ça. Il faut décanter, hein, les amis, il y a beaucoup de choses à enlever. Mais c'est forcément que le Seigneur vous dit des choses. Et je vous dirais que même des fois, il dit des choses malgré la valeur ou malgré la faiblesse du prédicateur. Je me souviendrai de cet exemple type d'un prêtre qui pensait faire une bonne homélie, travailler sa chose et tout. Et puis un paroissien qui vient à la fin lui dire « Mon père, votre homélie, ça m'a touché. » Le prêtre un peu flatté dit « Ah ouais, ouais, et quoi donc ?»« Ah, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit « Passons au second point. » Rien d'autre. Le prêtre, il en a pris une claque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a utilisé cette expression pour dire au gars, maintenant faut que tu changes de vie, passons au second point. Et ça l'a profondément touché. Donc il faut être prêt à entendre des choses, à les noter. Voilà, à dire, ben, aujourd'hui j'ai reçu ça, le Seigneur il a parlé. Voilà. Il faut vraiment reposer un acte de foi. Hein. Il y a un côté un peu endormi, c'est ritournel, on a l'habitude d'écouter, on est un peu soporifique. faut retrouver cette écoute attentive. J'espère que j'aurai la réponse à mes questions là. Tu vas me parler, tu vas me guider. Voilà. Voilà. L'homélie. Donc là, vous pouvez reprendre le temps, vous digérez tout ça, dans la méditation, nous digérons tous. C'est pour ça qu'à la fin de l'homélie, le prêtre lui-même s'assoit, le président, l'évêque, et à ce moment-là, lui aussi, il digère ce qu'il a reçu. Voilà. Et vous savez, comme dit des saints, hein, l'évangélisateur est le premier évangélisé, le prêcheur se prêche d'abord à lui-même. Voilà. Après cette liturgie de la parole, nous proclamons notre foi. Le Seigneur, il a parlé plusieurs fois, nous lui avons répondu, on a médité, ça a actualisé dans ma vie. Alors j'ajoute aussi que les parents, vous pouvez refaire des petites homélies de ce que vous avez reçu à vos enfants. Dans la tradition de l'Église, j'ai découvert ça récemment, on dit que le papa, dans la famille, c'est le petit épiscope, c'est le petit évêque. Il peut retranscrire l'homélie. C'est-à-dire il continue le travail de commentaire. Si le grand commentaire il a été fait pour tout le monde, on l'a digéré, on peut le redonner pour les plus petits. Et donc c'est important d'avoir de la matière. Surtout que le dimanche, je le redis encore, c'est la lumière pour toute la semaine. Alors après, nous proclamons notre foi, le credo. Je ne commence pas le credo parce que le credo, on le commande généralement. Il y a deux credos, le plus grand, Nicée-Constantinople, ou celui le plus court, mais aussi condensé, qui dit la même chose, symbole des apôtres. Voilà. Sont des formules qui disent toute notre foi. Et nous les proclamons au nom de l'Église. Voilà. Il y a des martyrs, il y a des gens qui sont morts pour tenir ces formules, qui ont une vraie valeur spirituelle, qui disent tout le mystère de Dieu et qui nous évitent véritablement de tomber dans l'erreur. Et donc d'avoir accès à la grâce et donc d'accéder au salut. Donc c'est vraiment important. Et dans ces formules, à un moment donné, nous inclinons la tête. Donc nous sommes debout à nouveau, comme des chrétiens ressuscités, dans la foi, dans le Christ ressuscité, nous sommes debout et nous proclamons fièrement notre foi, tous ensemble, une seule. Et voyez là, il se dit quelque chose de l'Église catholique. L'Église, elle est une, parce qu'il y a un mystère de communion dans le Saint-Esprit, elle a la succession des apôtres, et quand il y a l'évêque, on a le successeur des apôtres. On a tous les sacrements, donc c'est aussi catholique, ça veut dire intégral, tous les moyens de salut, tous les sacrements, mais en plus on a l'unique dépôt de foi, qui est tout credo. Donc quand toute l'Église rassemble autour de son évêque, dit credo, on a le mystère de l'Église catholique de manière très forte. Donc là, on est tous debout, on dit la foi de l'Église, tous ensemble. Voilà. On dit tous je crois, mais c'est un je crois dans un nous croyons, dans un croyant ecclésial. Et donc on va s'incliner un moment la tête quand on va dire par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Par respect pour l'incarnation de Dieu, on s'incline. Vous pouvez tous vous incliner. Voilà. C'est dit dans le rituel, hein, je cite en petite ligne rouge, tous s'inclinent. C'est pas un truc réservé pour les dévots. C'est pas un truc réservé pour le prêtre zélé. C'est vraiment une attitude où nous vénérons l'incarnation. Et comme il serait si beau qu'un non-croyant qui rentre dans l'église voit à ce moment-là tous les frères s'incliner au moment où il s'est fait homme. Il se dirait, oula, leur foi dans le Dieu qui s'est fait homme, ça a l'air du sérieux. Voyez, de la même manière, au moment de la solennité de l'Annonciation, le Verbe s'est fait chair, ou à Noël, qui s'est manifesté à nous, carrément le prêtre s'agenouille. Et il invite tous les paroissiens à s'agenouiller. Si on peut pas, si on est en fauteuil roulant, si on a une cave, on fait comme on peut, on s'incline. Mais sinon, c'est pas non plus du superflu, c'est pas une option, c'est un acte de vénération de ce que nous célébrons. Et voyez-vous, je fais une parenthèse sur les gestes. Nous faisons de la gym. Alors on fait des gestes, on fait du sport, on dit, on s'exprime dans les gestes. On va au football, on acclame des mains, etc. On danse, on n'imaginerait pas qu'on danserait avec sa tête, on danse avec son corps. On dit bonjour, on tend la main, on embrasse, on frappe fraternellement sur le dos de quelqu'un. Donc on s'exprime avec les gestes. Mais à la messe, alors qu'on croit qu'on est la réunion du corps et qu'on est incarné, on est des cérébraux. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de corps. Vous voyez pas le problème là? C'est près de lieu où ça s'exprime par excellence. Donc il y a un vrai enjeu de réincarner nos gestes. C'est une vraie pédagogie. Je fais un autre parallèle. Généralement, ce n'est pas un jugement, mais c'est pour caricaturer un peu, pour montrer des évidences. On n'utilise pas le geste, le corps, pour prier. Mais le jour où on a un gros problème, il se figure qu'on se met à côté de la Vierge Marie, on allume une chandelle, on se met à genoux à quatre pattes en disant « Aide-moi, aide-moi, aide-moi ». C'est marrant, ce jour-là, on prend très au sérieux le fait qu'on prie avec son corps. Pourquoi on ne le prend pas au sérieux tous les jours? voyez, il y a un vrai enjeu. Donc prier avec son corps, ce jour-là, nous inclinons et nous croyons à la vénération de Dieu qui s'est fait homme. Voilà pour le credo. Et après les credos, nous avons la prière universelle. C'est-à-dire que c'est la prière qui va partir du particulier à l'universel. Les chrétiens sont universels, ils sont incarnés par du particulier. Donc on peut avoir des intentions pour des personnes, dans un cadre de mariage, la famille, les défunts, pour plus largement la communauté, le diocèse et l'Église universelle et le monde. Vous voyez ? Et ça, c'est le peuple de Dieu qui intercède auprès de Dieu. Voilà. Et des paroles. Et donc, on fait nôtre ces intentions. Ça nous aide à nous décentrer à nouveau de mes petits problèmes, de mes petites joies, pour entrer dans une grande intercession. Et là, nous exerçons à nouveau notre fonction royale de baptisé, qui est d'intercéder auprès de Dieu. Voilà. Et cela, voyez-vous, frères et sœurs, cette prière universelle, nous pouvons la faire de manière imminente le dimanche. Nous pouvons la faire aussi en semaine, si nous voulions. Et nous la faisons de manière occasionnelle pour des grands événements. Un baptême, un mariage, etc. Voilà, et en clôturant la prière universelle, nous clôturons toute la liturgie de l'Eucharistie, la première grande partie. Donc nous verrons, pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après, nous verrons la deuxième partie sur la liturgie proprement eucharistique. Bonne méditation.